I chase the calm, weaved in and out of your arms. And where's the thunder? It breaks up and leaves when I put my head back in the clouds. From the top of my lungs, I'd be high.
Une baffe et tu te retrouves sur le cul.
Ben, j'aimerais voir ça. Hein.
Vu ?
La baffe, l'émission qui claque les idées reçues.
Il est là ! Le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. À Brest, on a relevé une température de moins 0,2 degrés.
Il est tout à fait fou ce type. Hein ?
You are fake news.
La baffe, une heure de questions-réponses pour démêler le vrai du faux.
Moi, je suis socialiste et je l'assume. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste.
Les yeux dans les yeux.
Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ?
Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin.
La BAF, le premier samedi du mois de 13h à 14h sur Prune 92 FM et sur le www.prune.net.
Ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard ? J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer.
Sois pas grossier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission La BAF, l'émission qui claque les idées reçues sur Prune 92 FM. Nous sommes en direct en ce magnifique samedi 6 mars et il est 13h. Comme chaque mois, nous vous avons préparé une émission avec des candidats, une invitée experte et un quiz ludique afin de décortiquer un sujet de société. Et aujourd'hui, plus d'un an après l'apparition de la Covid-19, une année plongée dans le brouillard des confinements, des gestes barrières, des couvre-feux. Une année où la culture a été sacrifiée. Les festivals. Céline Dion à Carré. Une année où nos liens sociaux ont été emprisonnés. Nos bistrots, nos t-shirts trempés par une sueur partagée. Sentant la fraternité de deux êtres, la rencontre de deux corps, le début d'un amour frivole. Enfin, une année où la domestication de nos êtres a fait jouir les dictateurs en herbe. C'est l'âme d'un pays qui flanche. C'est pourquoi notre équipe a décidé de prendre ses responsabilités. Celle de l'information, celle de l'espoir, celle de parler de ce qui fait encore la beauté, la fierté de la France aujourd'hui. Il est ancré au plus profond de notre histoire. C'est peut-être aujourd'hui la plus belle collaboration entre l'homme et notre planète Terre. Un breuvage qui nous a jamais lâchés et qui continue de nous enivrer. Je parle bien sûr du vin.
Oui, monsieur.
Le vin.
Oui.
Amen.
Alors, et pour vous en parler aujourd'hui, l'équipe de La BAF est pour la première fois au complet avec Mélissa, Pierrot et Titouan à la co-animation et à la réalisation. Bonjour à vous.
Et bonjour Sylvain.
Bonjour. Salut.
Salut tout le monde.
Vous allez bien ?
Ça va.
On va très bien.
Et pour nous accompagner tout au long de l'émission, nous avons le plaisir d'accueillir Aurore Métayer qui est caviste à Nantes. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Ça va, tranquille.
Tranquille. Est-ce que tu peux nous parler juste un poil de ton métier ? Qu'est-ce que tu fais sur Nantes en tant que caviste ?
Je vends du vin aux clients qui aiment le boire.
C'est
ça
parfait.
Ça reste
mais ça reste très honorable.
Efficacité.
Efficacité. Et avec nous, aujourd'hui, au lieu de quatre, nous avons la surprise d'avoir deux candidats. Pour le moment, on ne sait pas, peut-être une surprise va arriver. Alors, Luc et Mika, pour le moment, vous allez être en équipe et peut-être après, vous serez l'un contre l'autre, on ne sait pas. Donc, Luc et Mika, bonjour, comment allez-vous ?
Salut.
Vous allez bien ?
Oui, ça va bien, ça va bien.
Ça va super, merci.
Vous teniez à participer à l'émission particulièrement ? Vous êtes venu de loin pour participer à l'émission ?
Tout à fait. Ouais. Je viens de Normandie. Mmh. Et ces pages sont nombreux d'ailleurs.
Mmh. Et Luc, vous venez de région parisienne, c'est ça ?
Tout à fait, je viens des contrées montreuilloises, à l'est de Paris.
D'accord.
Mmh. Mika, Calvados ou la Manche ?
Bah l'Orne.
Ah mon dieu.
Hey, mon gars.
Bouya. Et vous savez d'où, chères auditrices et chers auditeurs. Avant de commencer le quiz, j'ai été me balader hier au marché de Talensac pour demander aux gens cette question. Qu'est-ce que vous appréciez dans le vin ?
Écoutez, déjà c'est la France, c'est le fromage, c'est un art de vivre, ça se choisit, etc. Ce sont les paysages, c'est la terre, c'est le travail.
Je préférais le rouge auparavant, mais le blanc a beaucoup de qualité également. Et puis c'est l'expression des terroirs français, et puis c'est l'identité de la France également.
C'est plutôt le vin qui m'aime. Alors pour des raisons de santé, ce sera le rouge. Mais j'aime bien le vin muscadet, l'allée foissière, Saint-Fiacre.
C'est un moment convivial.
Ah, j'adore le vin, oui. Surtout depuis à peu près un an, j'ai 30 ans. Et du coup, on se rend compte qu'on commence à prendre un petit peu de bide, à boire de la bière et on commence à s'ouvrir aux bonnes choses.
Le fruit, quoi. Hein, le fruit, hein. J'aime bien moi, tous les vins rouges hyper légers là, qu'on peut trouver en naturel.
Entre copains, on s'ouvre une bonne bouteille. Souvent qui ne dure pas très très longtemps.
D'ailleurs maintenant on a du bon parce qu'avant c'était dans les cafés ils vendaient de la cochonnerie, on était malades Le lendemain, on avait comme une casquette, alors qu'on n'a pas de casquette, on avait la tête, comme si on avait une casquette. Le lendemain, Dès que maintenant, si on boit du bon vin, on n'est pas malade.
Est-ce que le Covid, le contexte actuel, a fait que vous buvez moins de vin aujourd'hui ?
Avant, ce qui se passe en ce moment, c'était régulier. En ce moment, c'est moins rigolo. On se voit moins, on boit moins.
On boit moins de vin, oui. Malheureusement pour les producteurs français.
Pas du tout. Non, ça n'a rien changé du tout. Ouais.
Ça change rien. Parce qu'on fait des apéritifs pareils, mais on fait des apéritifs Skype hein, et du coup, au final, on boit du vin pareil en fait.
Alors je commence par d'abord de la bière. En ce moment, je suis à 6h, on prend une bonne bière de Chimay, la bière trappiste, elle est très bonne. Après, vers 8h, je prends un martini. Ah, voilà, très bon. Après, je fais des huîtres, alors je prends du Gustraminer et puis du Bordeaux pour le fromage. Après, je vais dormir. Et autrement, j'ai du Camoc, liqueur de Vendée, mais on m'appelait Capitaine Camoc quand je faisais les bistrots. Les grades qu'on peut. Non, oui. Par ça, ça va.
Donc voilà... voilà, des pépites, des personnes qui aiment le terroir, qui aiment la vie.
Voilà, quand on défend les vignobles dans leur ensemble...
On se donne corps et âme.
Voilà,
c'est ce qu'il faut. Des habitudes et des modes de vie différents.
Voilà, c'est comme on dit, c'est un choix de vie, le vin. Et du coup, Luc et Mika, vous allez être l'un contre l'autre. Donc j'espère que vous êtes prêts. Vous êtes amis dans la vie. mais là, aujourd'hui, il faut oublier votre amitié et tout donner. Donc c'est parti pour le vrai faux de la baffe.
L'après-shampoing à la baffe, une senteur anti-BFM et des molécules qui démêlent le vrai du faux.
Alors, première question pour répondre, il faudra dire votre prénom. Pour répondre, le premier qui répond, s'il donne la bonne réponse, vous avez le point. Si vous ne donnez pas la bonne réponse, le point va à l'autre. Tu fais le compte des points. Tiens, j'ai un truc, un crayon, si tu veux. On est un peu désorganisé ce matin, c'est pas bien grave.
Oh, c'est sympa.
C'est ça, c'est voilà. Détente.
Équipé,
alors, Mika, ton équipe, elle s'appellera l'équipe de Mika, ça te va ?
Ça me paraît tout à fait cohérent, en tout cas.
Voilà. Luc, je propose l'équipe de Luc.
Ouais, c'est plutôt raisonnable, oui.
Alors, c'est parti.
C'est parti. Première question. Blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp. Vrai ou faux ?
Luc, vrai.
Et moi, j'aurais dit faux, bien entendu.
Et malheureusement pour toi, Luc, c'est faux. Vous avez entendu souvent ce dicton populaire, il n'est pas très vrai. Et je crois que Aurore a une question à nous apporter sur le sujet.
Ah, pas une question, mais plutôt une réponse.
Plutôt une réponse, oui, pardon.
Les deux, ils font la paire. Ouais. Mais voilà, faut pas les mélanger non plus.
Ouais, c'est le réveil.
Ça a été déformé sur le vin, mais à la base, c'était un truc de marin. Où en fait, quand ils arrivaient à quai, avec le drapeau blanc, tout fout le camp, ils avaient le droit d'aller dans les rades. Et si c'était drapeau rouge, c'était rien ne bouge, ils restaient à quai.
Ah, top.
Okay. Voilà.
Voilà, c'est de l'information, la baffe, l'information utile. On continue avec une deuxième question. Alors voilà, une question. Avec le fromage, mieux vaut boire du vin rouge.
Vrai, Luc, vrai.
Mais Luc, interminable, il est rapide, mais il se trompe. C'est un faux. Faux. Deux points, du coup, pour Mika.
Je peux boire de la bière, du coup, hein, oui. Avec le fromage.
Alors, c'est une des grandes idées reçues sur le vin. Il faut un bon gros rouge qui tâche pour aller avec le fromage. Et c'est faux. S'il y a bien une tradition à ébranler, c'est celle-ci, car en effet... C'est tout le contraire, âme sensible, s'abstenir. Les fromages s'accordent mieux avec les vins blancs. Oui, vous avez bien entendu. La plupart de nos fromages sont faits pour être dégustés avec des vins blancs et de non du rouge. Alors pour votre prochain plateau de fromage, nous vous conseillons de sortir avec un bon pouilly fumé ou encore un Sancerre.
C'est une question de goût après, non ?
C'est surtout plus digeste en fait de boire du blanc avec les fromages qui sont plus gras. Et du coup, c'est beaucoup plus digeste.
Ah.
Et le tanin du coup permet de... Enfin, le tanin du rouge, en fait, pour moi... bousille un petit peu finalement le goût du fromage.
D'accord.
Ça équilibre moins.
Et okay. sur la question d'avant, blanc sur rouge ou rouge sur blanc, ok, ça vient de la marine.
Ça,
mais,
c'est une histoire, oui, c'est comme ça.
Mais du coup, qu'est-ce que tu conseilles toi quand même ?
Tu testes et puis tu vois.
Ok, ouais.
Et le rosé dans tout ça
Oui.
Alors, c'est pas un mélange de blanc et de rouge.
Par contre, on va revenir aux questions du vrai du faux. On va pas rajouter des questions.
C'est juste pour pas que Luc se trompe tout le temps.
C'est vrai, mais tu as raison. Franchement, bel bravo. Autre question. Le vin rouge a des vertus bénéfiques pour notre santé.
Vrai.
Luc, faux.
Luc. Est-ce que ça t'a une bonne réponse ? Eh bien, c'est une bonne réponse, c'est plutôt faux. On a cru dans les années 1990 que le vin rouge était bénéfique pour la santé, raison du fameux paradoxe français. Tout est parti d'une étude sur les Français qui, malgré un régime alimentaire aussi riche en lipides que celui des Américains, présentaient un taux de décès par maladie cardiovasculaire plus faible. Alors on s'est dit, on en a déduit que cette différence résultait de la consommation modérée de vin, typique des Français. Cette croyance a persisté des années, mais elle est aujourd'hui mise en cause par les scientifiques. Autre question, la viticulture est une grande consommatrice de pesticides, vrai ou faux ?
Luc, vrai ?
Luc, remontada de Luc, c'est vrai. On parle beaucoup de vin bio dans la presse, mais la réalité est tout autre. La viticulture française reste la plus grande consommatrice de pesticides en Europe, soit 15% des pesticides utilisés par l'agriculture. Alors que, voilà, récipiendaire, voilà, je lis les notes de mon cher ami Pierrot.
Attends, je m'inscris en faux. Sylvain, il prépare généralement l'émission entre 1h du mat et 2h du mat la veille de l'émission. Donc si t'as pas relu tes notes avant, c'est pas à moi d'assumer.
Non, alors vas-y. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la France, en gros, est le troisième consommateur mondial des pesticides et le premier utilisateur en Europe. Et en gros, bah voilà, c'est 15% qui sont utilisés.
Ça pollue pas mal.
C'est là. Voilà, le vin, waouh, c'est pas mal.
Bon, Luc, c'est bon, je t'ai remis à niveau, tu en
vas
commencer un peu à jouer.
Handicap au départ, mais c'est bon.
Autre question, vous êtes en égalité. Ce qui donne mal à la tête, est-ce que ce sont les sulfites, vrai ou faux ?
Mika.
Faux.
Oh,
Mika, t'étais devant, et ben t'es derrière maintenant.
Effectivement. J'ai
failli dire vrai,
hein.
Ça se voit que t'as
hésité. J'ai hésité entre les deux, en plus.
Ouais.
Oh, effectivement, les sulfites... Effectivement, les sulfites sont responsables d'une partie des maux de tête. Les sulfites sont ajoutés à des fins de conservation du vin. Et en fait, pour ceux qui ont des maux de crâne et en ayant bu du vin et qui pensent qu'en fait, il faut boire de l'eau pour que ça aille mieux, eh ben, ça ne sert à rien quand c'est question de sulfite, car oui, en effet, la déshydratation liée à l'alcool n'est pas dedans. Et dans ce cas, les maux de tête ne passeront pas avec de l'eau.
Ah oui.
Et avec deux bouteilles de but d'ailleurs.
Et oui, voilà.
Mais on entend pas mal parler de vin sans sulfite, mais ça n'existe pas en fait dans tous les vins.
T'as du sulfite naturel de toute façon présent dans la baie du raisin. Mais après, c'est du sulfite ajouté.
Alors, c'est quoi le vin sans sulfite ? C'est du vin sans sulfite ajouté,
ajouté
en fait, on devrait
dire
ça,
plutôt. C'est ça.
Et celui-là, il est censé faire quand même moins mal au crâne.
Bah parce que t'as pas les produits chimiques qui sont ajoutés, ni du coup les sulfites qui sont ajoutés pour conserver en mode antioxydant, etc. Mmh. Donc, oui, effectivement. Moins t'en auras, mieux tu te sentiras.
Ok.
Et ça va être la dernière question de cette série vrai-faux. Est-ce que le meilleur moment pour déguster du vin, c'est l'après-midi ?
Mika, vrai.
Mika, tu te mets, voilà, là tu te plantes le pied.
Moi,
dans un clou.
Trucs, hein,
c'est faux, c'est plutôt le matin à jeun. En effet, le matin à jeun, nous avons nos papilles.
Souvent, on l'a fait tout à l'heure.
Le matin à jeun, je le vis moins bien. Quoi. Les
papilles dégustatives sont meilleures. Alors aujourd'hui avec nous avons aussi Alizé qui vient d'arriver, Alizé qui est prunienne et qui connaît la ponctualité chez Prune. Il est 13h13, émission commence à 13h. Alizé, tu auras le plaisir de choisir ton équipier. Alors qui est devant aujourd'hui ? C'est Luc qui mène 4-2. Tu choisis ton camp, je te laisse choisir.
Ok, je vais avec Luc.
Voilà.
Bravo.
Encore une femme de challenge.
Du coup, donc,
non, je sais pas, je connais pas les deux. Donc,
Mais ils sont très sympas. Hein,
oui.
Non, mais si tu veux gagner.
Mais Luc est plus cultivé, clairement.
C'est une question de vin. C'est pas une question.
Et il y a Paulin qui arrive également.
Et il y a Paulin qui arrive. Et je vous propose du coup de passer à Vous n'avez pas les bases de Titouan.
Bah oui, parce qu'on parle de pinard, mais c'est bien de savoir d'où ça vient un petit peu et puis comment on le fabrique. Alors, j'ai pas la prétention d'avoir l'expertise d'Aurore qui me rectifiera avec grand plaisir derrière. Alors, d'où ça vient le vin ? Et bah, sachez que des archéologues, avec la présence de résines de térébenthine identifiées dans des céramiques découvertes en Iran, ont permis d'identifier les premiers vins, parce que c'était un agent conservateur qui parfumait le vin et l'empêchait de tourner en vinaigre. Donc, c'est avéré qu'il y a 8000 ans Au minimum, les hommes produisaient, stockaient, consommaient et échangeaient déjà du vin dans les régions montagneuses du Moyen-Orient. D'autres fouilles archéologiques ont mis au jour un complexe de vinification, c'est-à-dire un pressoir à vin et une cuve de fermentation en argile, datant de 6100 ans avant notre ère dans la région de Géorgie. La première représentation de procédé de vinification, c'est les Égyptiens qui l'illustrent et qui sont sans aucun doute ceux qui ont, appris aux Grecs à cultiver la vigne et la viticulture devient ensuite pour les Grecs entre 1500 et 500 ans avant notre ère un élément essentiel de leur agriculture, ce qui fait que de par leur conquista, si je peux me permettre un anachronisme, du bassin méditerranéen, ils implantent cette viticulture dans l'ensemble du bassin méditerranéen, notamment en Italie et dans notre bonne vieille Gaule en 600 ans avant Jésus-Christ sur les rives de la Méditerranée. Petit à petit, la viticulture s'étend le long du couloir rhodanien. Alors, le couloir rhodanien, en fait, c'est le Rhône, évidemment, jusqu'à monter vers le nord, l'ouest, et vers l'ouest, vers le Languedoc. Au début, on avait un jus, À la chute de l'Empire romain, l'Église maintient dans ses diocèses la culture de la vigne et du vin et répand sa commercialisation. Hein, donc, comme quoi, on n'a pas tout abandonné des païens. Ensuite, on avance un petit peu dans l'histoire, on trouve des traces de vignes en Amérique du Sud au milieu du XVIe siècle et en Afrique du Sud dès 1659. C'est des plants européens qui sont importés et plantés en Amérique du Sud, puis sur la côte est des États-Unis au XVIIe siècle. Mais ces plants importés aux États-Unis ne tiennent pas dû à des maladies locales, changer de continent, de terreau a fait crever les vignes européenne, et c'est vraiment à partir du 17e avec des grèves que le vignoble nord-américain se répand. Et c'est d'ailleurs ces mêmes nord-américains qui au 20e siècle vont faire naître l'idée de vin de cépage, donc de vin issu d'un cépage unique, un produit qui va faire la renommée du vignoble américain, avec lui celui de tout le Nouveau Monde. Puis, c'est au cours du 20e siècle que les progrès de la recherche, l'avancée scientifique et notamment des nombreux investissements industriels et agroalimentaires permettent l'avènement d'une science du vin, l'œnologie, ainsi que la hiérarchisation, très sympa à dire le matin, des vignobles, qui arrive à celle que nous connaissons aujourd'hui. Les cinq étapes de fabrication du vin, c'est tout simplement, on connaît très bien la première, c'est la vendange. Donc, c'est le fait de récolter les vins, puis de les écraper et de les fouler. Ce qui donne la deuxième étape, qui est le foulage, suivi du pressurage. Et après le foulage et le pressurage, nous avons la fermentation. Donc, fermentation, hein, on laisse enfermer, ça fermente. Et le mou ou jus, qui commence à fermenter naturellement dans un délai de 6 à 12 heures. Donc, ça arrive assez vite avec des levures sauvages. Et c'est à ce moment-là, on parlait tout à l'heure de vin naturel et d'ajout chimique, c'est dans ce délai en fait, que de nombreux vignerons interviennent, ajoutent une levure élevée industriellement qui apporte de la consistance et prédit le résultat final. Après la fermentation, nous avons la clarification. C'est le procédé dans lequel les résidus solides, tels que les cellules de levure mortes, les tanins, les protéines sont retirés. Le vin est alors transféré ou décuvé dans un nouveau réservoir. Par exemple, un fût de chêne, on voit souvent l'étiquette vieilli en fût de chêne, ou des cuves en acier inoxydable. Le vin peut aussi être clarifié par collage ou par filtration. La dernière étape, c'est la maturation et la mise en bouteille. Donc, soit on met tout de suite le vin en bouteille, soit on le fait vieillir davantage, opération qui peut aussi se faire quand le vin est déjà en bouteille. C'est une technique qui augmente l'exposition du vin à l'oxygène pendant sa maturation, ce qui réduit la quantité de tanin et aide le vin à obtenir un goût très fruité. Et pour ceux qui... parce que moi, j'aime le vin blanc, ça c'est plutôt en cuve d'acier inoxydable. Voilà, tout simplement. Rapidement, j'ai balayé ces deux dossiers que je pourrais vous mettre, à côté du podcast, qui sont très intéressants, qui retracent un peu l'historique, qui vont un peu plus dans le détail.
Eh ben, merci Titouan pour cette longue investigation sur l'histoire du vin et sa fabrication.
C'est quoi ce générique que tu mets?
C'est Mélissa qui a trouvé ça.
Ah, c'est une bouteille de vin qui...
qui explose. Wow, bon.
C'est chicandier.
Reprenons du sérieux. Parle de vin, c'est un sujet sérieux, plaisant mais sérieux. Ouais. Et on passe tout de suite.
On n'est pas là pour rigoler, hein, faut dire.
On est là pour un vrai travail de journaliste.
Ouais, tout à fait.
Et on est avec Pierrot pour les chiffres et les fakes.
Générique.
Les chiffres et les fakes, c'est tellement bien. Les chiffres et les fakes.
Des chiffres et des fakes.
Eh ouais, quand même. Est-ce que je peux commencer par une petite question un peu plutôt, je vous dis une citation, vous devez retrouver l'auteur.
à propos du vin. Alors, la citation, c'est « Le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage. » Qui a dit ça ?
Mignon.
Un homme de gauche ?
il était plutôt anarchiste, je pense.
Ah, il est très de gauche.
Je vous donne un indice. Je le dis un peu avec... voilà, j'essaye d'imiter, parce que je fais un peu des imitations. Le meilleur vin
n'est pas nécessairement...
C'est Brassens. Oui, bravo !
Mais quelle imitation de génie !
Oh là là ! Je m'y voyais.
Ça fait un point de plus pour l'équipe de Luc. Comment elle s'appelle ton équipe, Luc, maintenant ?
Avec Alizé.
Demi-sec.
Eh ouais, donc, demi-sec, 5 points et 2 points pour l'équipe de Mika. Allez, une vraie question. En moyenne, combien de bouteilles de vin chaque Français consomme-t-il par mois ? Wow. Alors peut-être que je vais vous faire des propositions.
Ouais,
c'est en moyenne.
Alors, est-ce que c'est en moyenne une bouteille et demie, 3 bouteilles et demie, 5 bouteilles et demie ou 7 bouteilles et demie ?
3 et demie.
Oh. Alors, Mika qui prend la main et qui dit 3,5. Et vous, vous dites ?
Bah, on aurait dit pareil, ouais. Mais du coup, c'est déjà pris.
Ah, ouais, alors, donc, de toute façon, vous avez faux tous.
C'est 5,5, non ?
La bonne réponse, c'était 5,5.
Bah, ouais, ouais.
Normal.
Selon des statistiques de l'Organisation internationale du vin, qui est organisation plutôt.
Au niveau, dans le vin.
En 2017, la consommation annuelle de vin est de 51 litres. Soit 5,6 bouteilles par mois. Ça peut paraître beaucoup, et pour cause, on est en France les deuxièmes consommateurs de vin au monde. Derrière, quel pays boit plus que nous, à votre avis ?
La Suisse.
Faux.
Les Américains.
Les Américains.
C'est combien de points, là ?
C'est un point. On peut lui donner un point.
Ah ouais, Mika, on peut lui donner.
Il est tout seul, on lui donne un point.
Merci beaucoup.
Bravo, derrière.
Petit bonus.
Et voilà, donc les Français boivent beaucoup de vin, mais ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'on boit beaucoup moins qu'avant. Depuis l'an 2000, la consommation de vin en France a baissé de 20%. C'est facile.
C'est
2000,
marrant, du coup.
20%, ouais. C'est le, on entend 20.
Ouais, moi, il y a même
voilà,
technique.
N'hésitez pas.
Je
et voilà. Et par contre, le budget consacré à la consommation de vin, lui, est resté intact.
Ah, oui, mais il a augmenté étant donné.
Voilà. Donc on consomme
plus de qualité.
Mieux. Voilà. Tout à
ça m'étonne pas. C'est dans l'air du temps.
C'est là où je voulais en venir.
C'est très citadin, non ?
Et du coup, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as remarqué ça, cette tendance à consommer moins mais mieux ou pas en tant que
caviste ?
Oui,
peut-être. Après, en conventionnel, j'avoue que je ne sais pas du tout, mais sur les bio, biodynamiques ou nature, après, c'est des vins qui sont souvent un peu plus chers parce que moins de rendement, etc. Donc, ce n'est pas à 5 euros la bouteille, mais un peu plus. Donc, fatalement, si on veut une qualité, comme par exemple manger des légumes bio, c'est tout de suite un peu plus cher au kilo. Donc, c'est un peu la même manière. Donc, on essaye de bien manger. Donc faire peut-être un peu plus cher, mais d'en prendre moins.
Mais ces vins-là, ils trouvent de plus en plus preneurs, quoi.
Ouais, carrément. Parce que tu peux en boire plus, t'as pas mal au crâne, donc vas-y, quoi.
Ok. Allez, deuxième question. Combien de litres de vin ont été produits en France en 2019 ?
Ah, un litre près, j'imagine.
Ah, moi, j'adore l'humour. 2 milliards de litres, 4 milliards de litres, 6 milliards de litres ou 8 milliards de litres, à votre avis ? Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
8 milliards pour les demi-secs ?
Alors, 8 milliards pour les demi-secs, et la réponse était 4,2 milliards de litres de vin. Le point va donc à Mika.
Ouais,
ça, c'est une remontada.
Chaque fois que j'ai marqué des points, j'ai pas répondu.
En 2019, la France a produit 4,2 milliards de litres. Et en volume, ce qui fait que nous sommes le deuxième producteur mondial de vin. On est le deuxième producteur derrière...
Les Américains.
Eh non.
L'Australie.
Contre. Non, derrière.
Le
Chili.
Je vous aide. Là-bas, on mange beaucoup de pizza, par exemple.
Ah, les Italiens, peut-être.
Italiens. Bravo, Mika. Ça fait un point.
Ça fait un point.
Égalité.
Égalité.
Ah, vache.
Oh là là.
C'est fou.
Ah, l'artiste.
Et on produit beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on produit, me demanderez-vous, peut-être. En France, les 3 bouteilles sur 4 sont des vins qu'on peut dire tranquilles.
Ah oui, du calme. Hein.
Et parmi ces vins tranquilles, une bouteille sur deux est une bouteille de rouge. Ah non, ouais, donc, je me suis planté. Non, je me suis planté. Voilà. 3 bouteilles sur 4 sont des vins calmes, pas effervescents.
Oui. Donc tranquille.
Donc calme. Tranquille, c'est bien ça que je voulais dire. Et une bouteille sur deux est rouge. Non, en fait, c'est exactement ce que je voulais dire. Tout se tient. Et j'ai pas préparé l'émission à 2h du matin ce matin, mais j'ai le temps encore pour une dernière question. Le prix de la bouteille la plus chère du monde. Ah ah. Wow. À votre avis, est-ce que c'est 250 000 dollars, 500 000 dollars, 1 million de dollars ou 2 millions de dollars ? À combien elle a été vendue, cette bouteille ?
2 millions de dollars, Mika. Faut taper là-haut, faut taper fort.
Ah putain,
non,
c'est
ça se mérite.
Non, malheureusement, c'était 500 000 dollars. Ouais. Et là, Mika, je suis obligé de donner le point à l'équipe des demi-secs.
C'est pas grave. J'ai fait preuve de panache.
558 000 dollars, pour être précis, ou 482 326 euros.
Et c'était quoi ?
Soit 32 ans de SMIC, quand même. J'ai fait le... Ou alors, 3 minutes de travail pour Jeff Bezos, le patron d'un... c'est bien d'avoir des points de comparaison. Et c'était quoi ? C'était une bouteille de Romanée Conti Millésime 1945. Ah, oui. Ça te parle ?
Ouais.
Et pourquoi le Romanée Conti 1945 vaut si cher ?
Alors 1945, j'en sais rien, sans doute déjà parce qu'il est vieux. Et Romanée Conti, c'est un des domaines les plus chers de toute façon en France. Et un des plus vieux domaines en biodynamie également.
Et j'ai une question, si je peux me permettre.
Oui.
Ça se boit pas, ça, en fait, Aurore ? C'est pour la conservation.
Non, je pense que
c'est
des collectionneurs d'étiquettes.
C'est ça, hein.
Plus que...
C'est peut-être même pas bon, en fait. Enfin, je sais pas, mais...
Là, j'ai jamais goûté, mon gars, donc je peux pas te...
Même
sur des cuvées de la Romanée Conti de l'année, tu peux même pas les acheter. C'est déjà réservé, etc. Ou alors, il faut vraiment avoir beaucoup de sous.
Et parce qu'il s'avère qu'aussi, le Romanée Conti, en 1946, ils ont décidé d'arracher et de replanter les vignes. Donc en fait,
c'était les dernières vignes en fait existantes.
C'était la toute dernière. Ce qui fait que le prix s'est encore plus envolé.
Il y avait un petit côté souvenir.
Dernière question,
quoi.
Allez,
dernière rapide.
La dernière. Alors attends, je choisis. Celle-ci, elle est pas mal. Allez, je fais celle-là. De quand date la plus vieille bouteille du monde, bouteille encore non ouverte à l'heure actuelle, je précise. Est-ce que c'est 325 avant Jésus-Christ, 350 après Jésus-Christ, 660 après Jésus-Christ, ou alors 1470. Alors là, il faut se jeter à l'eau.
1470 pour les demi-secs.
Mika, t'aurais plutôt dit 350 après Jésus-Christ.
j'aurais peut-être dit comme les demi-secs.
Ah ouais, mais vous avez faux, parce que la bonne réponse, c'est 300 après Jésus-Christ. La bouteille qu'on appelle la bouteille de vin de Spire. Et elle est considérée comme la plus ancienne bouteille de vin au monde, donc datée de 300 après Jésus-Christ. Elle a été déterrée en 1867 en Allemagne, dans une ville du nom de Spire. Et elle était en fait dans un sarcophage, dans la tombe d'un noble romain qui s'était fait enterrer avec plusieurs bouteilles pour l'accompagner dans son passage dans l'au-delà. Et en fait, elle a tenu le coup parce qu'elle était bien scellée avec de la cire. Et aujourd'hui... selon une œnologue, Wikipédia, qui cite. Apparemment, les spécialistes disent que le vin n'est pas gâté. Il pourrait même avoir encore un certain plaisir en bouche. Voilà. La plus vieille bouteille du monde qu'on peut voir du coup dans ce musée allemand.
Eh ben merci Pierrot et à toutes et à tous pour ce magnifique moment des chiffres et des fakes. On vous laisse avec une pause musicale d'un artiste inconnu, une chanson humoristique qui s'appelle Nick Labac.
Ok, 44, 19, puis la zone. Le pont en l'air, ça dit là-bas. Nique la bague, tout le monde nique la bague. Même la bague nique la bague, ouais j'nique la bague. Tout le monde nique la bague. Ma grand-mère nique la bague, ouais j'nique la bague. Tout le monde nique la bague. J'suis plazade, retire-moi les plaques. Ouais j'nique la bague, ouais tout le monde nique la bague. Free Adec, j'suis plazade, retiens bien les plaques, et ouais. Adec sur la plaquette, Adec sur la A7. Tout le monde nique la bague, ta mamie nique la bague, tout le monde nique la bague, même la bague nique la bague, ouais j'nique la. On met le KOE, ouais. On met le KOE. Ouais. On met la cagoule. On met les lunettes. À 3 ça caillasse la bague. 1, 2, 3, 4, caillasse la bague, caillasse la bague.
dead soul. Tout le monde nique la bac, ta mamie nique la bac, tout le monde nique la bac, même la bac nique la bac, ouais je nique la bac, tout le monde nique la bac, ma grand-mère nique la bac, ouais je nique la bac, tout le monde nique la bac, j'suis blazade, retiens les plaques.
La BAF, l'émission qui claque les idées reçues.
Moi je te le dis tout de suite, je sais pas ce que c'est un bon vin.
Mais personne n'a aucune idée c'est quoi un bon vin, c'est du mytho tout ça.
Ben, comment ça?
L'exercice c'est pas vraiment goûter le vin. L'objectif c'est dire des mots stylés avec une confiance en soi, c'est tout.
Voilà, petit épisode humoristique. Vous êtes de retour sur Prune 92 FM dans l'émission La BAF qui a pris comme sujet ce mois de décortiquer le vin. Avec nous autour de la table, Alizé, Pauline, Mika et Luc comme candidats et Aurore avec nous comme invité expert. Et c'est le moment de la big question.
La BAF, l'émission qui claque les idées reçues.
Alors, l'équipe, on va rappeler juste les noms d'équipe. Alizé et Luc, vos noms d'équipe, c'est les...
Demi-sec.
Demi-sec, parfait. Mika et Paulin, c'est...
Les taxi drivers, apparemment.
Les taxi drivers, ok.
En honneur à tous les connards de taxi aujourd'hui.
Voilà, c'est dans l'actualité du moment.
On vous embrasse.
On vous aime. Alors, question qui vaut, allez, 3 points. 3 points, c'est la big question. Combien d'additifs peut-on retrouver dans une bouteille de vin conventionnelle, donc celle des supermarchés, celle qu'on achète tous à 5 euros du Côte-du-Rhône. Combien d'additifs qu'on peut y trouver? 27, 47, 67 ou 97?
Hein?
Alors, quel est le nombre
27,
d'additifs?
27, 47...
Laisse-les répondre.
Je répète la question, je n'ai peut-être pas été clair. Combien d'additifs peut-on retrouver dans une bouteille de vin? Les additifs, c'est qu'est-ce qu'on rajoute au vin pour que ça fait qu'il soit bon. 27 additifs, 47 additifs, 67 additifs...
Pas bon, du coup.
97 additifs.
On vient de faire un malaise.
Je convulse, pardon, je convulse.
Je l'ai fait gros, c'est compliqué aujourd'hui, j'ai senti, j'ai fait un gros raccourci.
27, non 27. 27,
27. 27, et pour vous, l'équipe des taxi drivers
47, bien sûr. Hein non, plus
oui, moi, j'aurais, non, dit, j'aurais dit 27, mais on va dire 47.
Ouais, mais on peut pas dire comment, en fait. 40.
On veut pas être
allez,
consensus.
Les 3 points vont à Mika, parce qu'il a eu une première intuition très très bonne. C'est 47 ouais. Additifs qu'on peut retrouver dans les vins conventionnels.
Alizé, je suis...
En alors, fait, il faut toujours que tu répondes l'inverse de ce que je dis. En fait. Et voilà. Du coup, on aura le point.
On va y arriver.
Alors, les vins conventionnels sur la majorité de la production viticole peuvent ainsi recourir à 47 additifs différents, tandis que les vins naturels, à l'autre bout du spectre, ne s'en autorisent éventuellement qu'un seul à faible dose. C'est le dioxyde de soufre qui sert à la conservation du vin en cas de transport. Voilà.
Antioxydant aussi.
Antioxydant. Oui. Voilà. Parfait. Et du coup, à quoi servent les additifs dans le vin Aurore?
De lisser le vin, en gros. C'est-à-dire que si tu récoltes un raisin qui n'est pas assez mûr, donc très acide, bah, du coup, ils vont rajouter du sucre, ils vont le chaptaliser pour justement l'adoucir un petit peu. Donc, tu as déjà le sucre. Pour d'autres vins, tu peux rajouter, mettons, des copeaux de bois pour donner cet effet un peu boisé dans le vin. Tu peux mettre des levures qui ne sont pas des levures indigènes, donc des levures chimiques que tu rajoutes pour justement apporter des arômes tels que le pamplemousse pour un rosé ou pour un blanc pour donner ce côté un peu agrumé. Enfin, tu peux mettre, mais en fait, c'est assez incroyable tout ce que tu peux mettre. Du blanc d'œuf, si tu veux, pour filtrer le vin ou des choses comme ça. Enfin, tu as beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être mises dedans. Et je crois que j'en sais même pas tout, tellement ça doit être assez incroyable au niveau chimie.
Et là, aujourd'hui, tu travailles en tant que caviste dans le vin naturel, plutôt.
Ouais.
Dans le vin bio, il y a 35 additifs supplémentaires. Du coup, vous, c'est réellement un seul. Qu'est-ce qui fait cette différence-là? Comment vous travaillez? Comment
sur
vous fabriquez le vin?
Ouais, sur le cahier des charges, après, en bio, bah, comme n'importe quel légume, tu as dans un cahier des charges, en fait, des traitements possibles. Après, en nature, inversement, c'est... comme si toi, tu faisais ton potager chez toi, c'est-à-dire que tu ne vas pas mettre plein de merde dedans, tu as juste envie que ton poireau ait le goût du poireau. Donc là, c'est un peu la même chose en fait, dans le vin naturel, c'est-à-dire que tu as tel cépage dans telle région, avec tel climat, mais en fait, tu as envie de ne pas le lisser avec plein de traitements rajoutés ou plein d'ajouts. Tu as envie justement d'avoir vraiment le goût du terroir et du cépage dans ton vin. Donc c'est vraiment ta très peu d'interventions du vigneron. Tu fais vraiment très attention à ta terre. Tu ne mets pas d'engrais, tu ne mets pas de traitement, etc. Et tu essaies d'avoir le pur goût du raisin, en fait.
Et dans la fabrication du vin, du coup, comment ça se passe? Est-ce que c'est la même chaîne de valeur?
T'as les mêmes procédés, c'est juste que tu ne rajoutes pas de sulfite quand tu le presses, tu ne rajoutes pas de sulfite dans ta cuve, tu ne rajoutes pas de traitement dedans. Enfin, c'est vraiment que ce soit dans la vigne ou dans la cuve, tu n'as pas d'intrants, quoi.
Et du coup, si on met des intrants pour lisser le vin, le conserver,
ça va changer son goût.
Et quel est le goût, la différence du goût qu'on retrouve qui marque un vin naturel? Je suppose que c'est très, 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 très large.
C'est assez, assez compliqué. C'est juste que, du coup, mettons, ça aurait été intéressant d'avoir, par exemple, un muscadet conventionnel et un muscadet nature. Et là, tu peux vraiment voir la différence où, du coup, déjà d'une, tu sens un peu plus le sulfite dans le conventionnel. À force, tu vois, c'est dans le nez, au niveau de la gorge, ça peut piquer un peu plus parce que c'est vraiment plus intense au niveau des quantités. Après, là, comme ça, je ne saurais pas te dire. C'est juste que, bêtement, tu sens le goût du terroir, du cépage. Donc après, tu as vraiment ce goût qui est retrouvé, quoi. Plutôt que lisser avec du bois, des ajouts, en disant « Ah tiens, c'est vrai que sur la Syrah, il y a un petit peu de violette, un peu réglissé. » Ils rajoutent des levures pour faire ce truc-là, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas chez les vignerons qui essayent de faire ça correctement.
Et qui
le font correctement, surtout, pardon.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent au vin naturel? Est-ce que c'est quelque chose qui est connu
Ça commence, je trouve, quand même, depuis quelques années. Après, parce que les gens sont aussi dans cette recherche du boire bon, boire bien, comme manger bon, manger bien. Donc ça se développe aussi maintenant sur le vin. Et puis, parce que du coup, c'est quand même plus sain de boire des choses qui sont juste un jus de raisin fermenté qu'un jus de raisin avec plein de produits chimiques à l'intérieur, quoi. Comme les bières artisanales ou ce genre de choses, de la même manière.
Et j'ai plus de questions, merde. j'en finis avec ça. Mais il était tard hier soir, je suis désolé, chers auditrices.
Tu préparais ton émission, c'est ça?
Non, moi j'ai une question parce que j'ai lu sur internet, entre guillemets, que par exemple, si j'achète un Saint-Nicolas de Bourgueil à 7 euros chez Leclerc, ça va être tous les mêmes bouteilles, je ne veux pas être déçu. Par exemple, apparemment, avec le vin naturel, le goût peut changer d'une bouteille à une autre.
Alors, d'une bouteille à une autre, si c'est dans la même, enfin, si c'est embouteillé au même moment, non. Mais par contre, si tu as par exemple une même cuve, mais qui est embouteillée de deux jours différents, oui, peut-être. Parce que tu peux avoir, et si c'est un jour fleur, s'il a fait beau ce jour-là, s'il y a un climat différent, c'est, effectivement, ça peut changer. Tu as même des fois... tu peux goûter un vin naturel, mettons, le lundi, au mois d'avril. Tu le regoutes le lundi au mois de mai, il n'aura pas forcément le même goût. C'est un vin vivant, donc il peut continuer aussi à évoluer en fait, dans la bouteille. Voilà.
Et du coup, le producteur, est-ce qu'il s'y retrouve? Est-ce qu'avec les producteurs de vin, entre guillemets, ceux qui te fournissent en vin, qu'est-ce qui te retourne comme information? Parce que c'est comme, je pense, l'agriculture...
C'est que ça peut changer, en fait, tout simplement. Donc après, on est conscient de ça.
Mais ça coûte plus cher, du coup, de produire du vin naturel ou non?
Ça coûte plus cher, c'est surtout qu'après, tu as moins de rendement. C'est-à-dire que, du coup, si tu as moins de rendement dans tes vignes, tu as moins de quantité de bouteilles. Donc, fatalement, tu n'as pas une énorme trésorerie, donc tu ne gagnes pas énormément ta vie. Contrairement à des vignerons conventionnels où tu as énormément d'hectolitres à l'hectare, tandis qu'un vigneron nature, vu qu'il n'y a pas énormément de traitement, ça ne va pas engendrer énormément de vignes et énormément de rendement. Donc, évidemment, c'est aussi pour ça que c'est un peu plus cher, parce que ça met du temps. Et c'est... voilà.
Eh ben, je te remercie grandement pour tout ça. Tu as une question, Luc ?
Oui, je me demandais du coup au niveau conservation pour le vin naturel, comment ça se passe ?
Faut pas que ça soit forcément dans une pièce trop élevée en température. C'est bien que ça soit en dessous de 14 degrés. Parce que c'est vrai que vu qu'il n'y a pas trop de sulfite ajouté, des fois le raisin peut repartir en fermentation selon si c'est vraiment trop chaud, ce genre de choses. Donc effectivement, ça peut modifier le goût du vin.
Et comparé au vin conventionnel, en fait, tu vas pouvoir le conserver moins longtemps ?
Non, ça dépend desquels. Ça dépend comment c'est vinifié, ça dépend si c'est un rouge, ça dépend si c'est un blanc, ça dépend de tout ça. Si c'est filtré ou pas, t'as pas mal de paramètres qui rentrent en compte.
Ok, et merci. Ben...
Donc t'as pas une grosse réponse, mais en même temps, ça varie selon les vignerons, les régions, la manière dont c'est vinifié et mis en bouteille aussi.
Le vin est un mets très très subtil.
Chaque année, ça change.
Merci à toi Aurore pour ces réponses et on va passer tout de suite avec la rubrique locale de Titouan.
Actu local, 44 égale BZH.
Oui, un jingle évidemment très, très engagé. Le local, ce sera sur le muscadet. J'en suis un féru buveur. Donc j'ai deux petites questions sur le muscadet à vous poser, chacune valant un point. Alors, la France, c'est le pays qui consomme le plus de muscadet, bizarrement. Je vais vous demander de me citer deux pays qui consomment aussi du très bon muscadet, qui vont chercher le muscadet français pour aller le consommer. Et là, vous vous débrouillez, vous me sortez deux pays, et si vous avez deux pays, c'est bon.
USA.
Ouais, les États-Unis et l'Australie.
Italie.
Et, ouais. Italie, vous mettez quoi comme pair, vous? Italie et quoi?
Nous.
Attends,
désolé, j'ai l'habitude d'être seul.
Ah, c'est pour ça.
Mais là, on a tous répondu. Bah, Italie et Américain.
Et Amérique, tu
m'as dit. Ouais. Mika a donné. États-Unis, ouais. c'est un pays qui était bon, mais pas l'Italie, pour le coup. Donc un demi-point pour les États-Unis. Non, pas la Suisse, les autres gros pays consommateurs de muscadet.
L'Allemagne.
La Grande-Bretagne, le Japon, le Canada. Et le journaliste qui avait écrit l'article a dit le Benelux, qui regroupe en fait la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.
C'est
le Benelux.
Pas un gâteau, ça, le Benelux?
Benelux,
je pense que c'est lié au traité de Rome en 1957.
Oui, c'est un truc comme ça.
Quand vous
achetez du muscadet, vous pouvez voir des sous-appellations régionales sur l'étiquette. Et je vais vous demander de m'en citer au moins une sur les trois.
Voilà.
Il y a trois sous-appellations régionales de muscadet.
J'aime pas le muscadet, putain.
Waouh, tu te calmes tout de suite.
Oulala.
T'as bien fait d'arriver après la cuite.
Il y en a une en tête. Vous voyez souvent écrit muscadet, gna gna gna.
Ouais,
je vous demande le gna gna gna.
Un truc 44, la Pays de la Loire, non?
Le centre Val de Loire.
Je suis nul en muscadet.
Qu'est-ce que ça peut.
Moi aussi, c'est le seul que j'aime pas.
Mais du coup,
c'est un scandale.
Je vois pas quel genre de.
Il va me détester, Tito.
C'est vraiment.
Hein?
C'est vraiment.
Donner peut-être c'est vraiment. Ouais.
Je vous en donne une. Alors, par exemple, il y a muscadet Coteau de Loire.
Okay. Ça, c'est non, mais j'avais dit Loire.
Oui, mais c'est pas Coteau de Loire.
Pays d'Oc.
Hein,
Pays d'Oc.
Pas de point.
Voilà, Luc, pourquoi je ne dis rien.
Pays d'Oc, Languedoc. Bah non, du coup.
Tu mets un point pour l'adversaire, d'ailleurs. Tu mets un point pour les demi-secs.
Ma technique est bien rodée.
Il y avait muscadet Sèvres-et-Maine, celui qu'on voit beaucoup en supermarché.
C'est moi.
Et muscadet Côte de Grand-Lieu.
Du coup, c'est pour ça, depuis tout à l'heure, il me dit à l'idée, je suis là, mais...
Tu t'appelles Pauline?
Oui.
Ça, on fait connaissance.
Il y a 9000 hectares de vignes qui donnent du muscadet et dans lesquels on trouve qu'un seul cépage, le muscadet, mais qui a un autre nom. Est-ce que vous connaissez l'autre nom du muscadet? C'est dur. Hein.
Ah ouais. Le truc sucré, là.
Le truc sucré. Pardon. C'est un fruit et c'est une région qui n'a rien à voir avec la Loire. Incroyable.
La Mirabelle.
La Mirabelle, non, pas du tout.
Un mais fruit jaune. T'as dit
obligé de sortir, par contre, je suis désolée. Ouais.
Un fruit. Qui est souvent utilisé comme nom de cépage, d'ailleurs.
Comme dirait Denis.
On va faire en rébus, peut-être, avec un fruit qu'on mange l'été, qui est gorgé d'eau.
Voilà.
Melon.
Voilà. Et le centre d'un village, c'est quoi?
Le bourg.
Voilà. Et la moitié de l'oiseau qui amène les enfants en Alsace.
Oh putain, j'y pensais.
La cigogne.
Voilà, donc ça donne quoi?
Quoi?
Bourgogne.
Voilà, ouais, avec le fruit avant.
Donc c'est le melon de...
Melon
de
Bourgogne. Melon.
Voilà, voilà. Ah, merci. Voilà. La baffe spéciale Kidou.
On est sur les petits.
Une petite dernière pour la culture générale. Le muscadet, c'est du pinard, mais c'est aussi un moyen de locomotion. Lequel?
C'est un train?
Non, c'est pas un train.
C'est
Chevaux.
Non,
vélo.
Pas un vélo, pas un truc avec des chevaux.
C'est une petite Rosalie?
Non.
Est-ce qu'il y a un moteur?
C'est un bateau peut-être?
C'est un bateau, tout à fait. C'est un bateau à voile, le muscadet. Yes, c'est un bateau à voile. Et oui. Bien joué. Le Normand qui répond mieux sur le muscadet que les Nantaises. Très bien.
Dès qu'il y a de la flotte.
Je suis pas Nantaise.
C'était tout pour le muscadet.
Je suis Nantaise, mais bon. J'aime pas le muscadet.
C'est parce que t'en as pas.
On enchaîne. Bon. Je sais pas ce que c'est après. C'est pas moi l'animateur. Hein.
C'est peut-être.
Donc je pense qu'on peut faire un petit rappel des points.
Rappel à la loi.
On a gagné, nous.
10 points pour 11 points pour les taxi drivers et 7 points pour les demi-secs. Mais tout est encore possible. Hein. Il reste plein de questions.
Et maintenant, c'est le moment que nous attendons tous. Chaque mois, c'est ce moment où Titouan se transforme en...
Ah, j'adore ce moment.
Je ne peux même pas le décrire. Je vous laisse découvrir Titouan et son mytho du mois.
Ah oui, c'est vrai.
Le mytho du mois.
Alors, c'est une question à un point pour une fois, parce qu'elle est facile. C'est une question qui n'a rien à voir avec le vin. Mais moi, je vais décortiquer un peu ce que disent nos chers hommes et femmes politiques et trouver le pire mytho, parce que c'est quand même rigolo d'un peu débusquer ça. Alors, qui a eu la brillante idée de déclarer l'islamo-gauchisme gangrène l'université ?
Frédéric Vidal.
Non,
c'est Frédéric Vidal, tout à fait. Ministre de l'Enseignement.
Excusez-moi, il ne faut pas dire le nom de son équipe avant. Taxi driver Frédéric Vidal.
C'est Frédéric Vidal. Je sais pas si on
sait pas qui l'a dit.
Je sais pas si on a décidé de mixer idiocratie et les heures les plus sombres de notre histoire, mais clairement on ne vit pas la meilleure timeline. 400 morts par jour du Covid et pourtant, en dépit d'un couvre-feu maintenu, il doit y avoir une bonne raison, non ? Des étudiants mi-présentiels, mi-distanciels, mi-figues, mi-raisins et surtout en proie à la dépression, à l'isolement social, en queue-leu-leu filmé par Brut tous les soirs devant la distribution d'aide alimentaire. La priorité, c'est l'islamo-gauchisme qui gangrène. Pour rappel, c'est comme le judéo-maçonnisme des années 30 et le H de Hawaï, ça n'existe pas. Hein, le CNRS a publié dessus récemment. Et pourtant, selon un sondage du Point, 7 Français sur 10, et je ne vais pas dire que 7 Français sur 10 sont des abrutis, 7 Français sur 10 croient que l'islamo-gauchisme est un problème. Je vais quand même préférer fustiger les médias et les politiques qui en parlent comme un truc tangible et qui font des sondages dessus. Mais forcément, si tout le monde en parle, ça doit exister, non ? Bon, pour cette chronique, je me suis dit, tiens, allons lire la fiche Wikipédia de Frédéric Vidal. Alors, spoiler alerte, c'est quand même plus désespérant que rigolo. Hein. C'est une universitaire et une scientifique médiocre, voire nulle, une administratrice accusée de fraude et qui a transformé dans une fac à Nice des parcours de master de biologie à 256 € par an en parcours à 4000 boules l'année. Elle est née à Monaco et elle est fille de bourgeois, ça surprend absolument personne. La gangrène, c'est pas l'islamo-gauchisme parce que ça existe pas, hein, mais c'est pas non plus l'islam politique parce qu'il y en a pas en France. Enfin, je sais pas, vous avez vu un candidat à la présidentielle parler ou porter l'islam politique ? Personnellement, moi non. Et puis, c'est pas la gauche parce que la gauche, elle a jamais vraiment été au pouvoir. En revanche, elle a porté des luttes. La gangrène, c'est Vidal, Macron et consorts. Et quitte à nommer débilement des trucs, moi je trouve que le gouvernement est gangrédé de nazio-libéralo-stupidisme. Mais hélas, je crois que ça existe. Enfin, je vais poser la question autour de moi. Je trouverai bien 7 personnes sur 10 pour être d'accord. Viva la révolution.
Hey.
Eh ben, merci à toi, Titouan, pour ce magnifique mytho du mois. Pierrot, un petit point sur les scores ?
Il y a 11-8 et on rappelle hein, que les propos de Titouan n'engagent que Titouan.
Que lui, tout à fait. Et ben, je vous propose de passer à la rubrique internationale avec Mélissa.
Actu internationale, comme le nuage de Tchernobyl, les mensonges dépassent aussi les frontières.
Première question.
Sans transition. Sans
transition. Ah ouais, bonjour déjà. Salut.
Alors, selon le magazine Wine Spectator, quel vin a été élu meilleur vin du monde en 2020 ? Première question. Réponse. Le français du domaine de la vieille ferme julienne, un AOC Côte du Rhône, un vin chilien. Maya Camas, un Cabernet Sauvignon, ou un vin espagnol, le Higué, issu du cépage Tempranillo.
Mais quel est le plus sucré ?
Je pense qu'il y a deux, c'est pas...
le troisième, le truc...
Je dirais le deuxième pour les demi-secs.
Nous, taxi driver, le vin dirait, chilien. L'espagnol, nous.
Moi, j'aurais dit le vin chilien.
Et c'est une bonne réponse pour les taxis drivers. Donc, c'est bien le vin espagnol qui a été élu meilleur vin du monde. Ensuite, l'américain, en troisième position, l'italien. Et la France arrive en cinquième position seulement. Deuxième question.
Ça fait un coup.
En 2018, un vin espagnol a bousculé le monde viticole. À votre avis, quelle est sa particularité ? Les cépages étaient cultivés sous la mer, 20 000 lieues sous les mers. Le vin n'était pas de couleur rouge, blanc ou rosé, mais bleu turquoise. Ou le vin était totalement artificiel, créé en laboratoire et vendu comme un grand champagne haut de gamme.
C'était quoi le début de la question ?
Pour les demi.
En 2018, un vin espagnol a bousculé le monde viticole. À votre avis, quelle est sa particularité ?
Taxi driver, on dirait le dernier qui est artificiel.
Alors nous, on dirait qu'il est, pour les demi-secs, qu'il est bleu turquoise.
Et c'est une bonne réponse pour les demi-secs.
Allez.
Donc c'était effectivement un vin inventé par des Espagnols. Donc il était bleu turquoise. Donc ils ont affirmé que c'était un vin 100% naturel. Mais en fait, il avait des colorants, donc le E133, connu pour donner la couleur bleue au Curaçao.
Ok.
Tout le monde connaît le Curaçao.
Oh la vache, oui. Ça fait si longtemps.
De quoi, pour le Curaçao?
Ouais, je savais oui, plus oui, que c'est... ça existait.
Moi aussi, j'avais oublié.
Ouais, c'est vieux.
On y pense. Il y a encore des gens qui boivent du Malibu aussi ou...
ça... ah non, je pense, oui.
Passoa, peut-être.
Passoa, ouais, Passoa.
Passoa.
Produire du vin sous un climat tropical avec des températures avoisinant les 30 degrés été comme hiver, c'est possible. C'est l'idée de deux Français, François Normand et Philippe François. À votre avis, dans quel pays du continent africain ces Français se sont-ils installés? En Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal?
Où est-ce que c'est humide?
Pauline, elle a toujours une petite question en supplément.
En supplément. Oh, c'est intéressant.
C'est... Moi, je sais pas.
Pour les demi secs, on dirait Ghana.
Puis nous, on va dire Côte d'Ivoire. Hein,
ouais. Voilà.
Non, c'est vous avez faux.
C'était l'autre.
C'était le Sénégal, effectivement. Voilà. Donc, voilà. Bah, zéro pour tout le monde. Donc, effectivement, ils sont installés au Sénégal. Donc, ils ont mis presque 7 ans à produire leur première cuvée, puisqu'ils ont dû faire face à des attaques de termites, le vol les singes qui piquaient les raisins. Et puis, ils ont dû faire plein d'analyses au niveau des sols pour faire pousser le raisin. Donc, c'est la première exploitation du Sénégal et plus largement d'Afrique de l'Ouest. Et la bouteille s'appelle le Clos des Baobabs, puisque c'est en dessous des Baobabs qu'ils ont planté leur vigne.
Ok.
Quel est le point commun entre Isabelle, Jacquet, Clinton, Herbemont, Noah et Othello? Ce sont les noms donnés aux cépages américains hybrides et interdits. Ce sont les prénoms des champions du monde du championnat international de débouffage de bouteilles de vin.
Débouchage.
Ah oui, il y a que deux. Excusez-moi, là, j'avais pas d'idée, donc il y a que deux propositions.
La première, ouais, moi aussi.
La première, nous aussi, on aurait.
La première.
Ouais. La deuxième.
Bah non, mais du coup,
alors.
Les prénoms, c'est ça.
Parce qu'il y a eu le petit bruitage et ça m'a mis la puce à l'oreille.
Ouais, mais c'est...
Oh, comme mais vous avez déjà dit la première.
Les champions ou les cépages?
On dirait les champions.
Dernier mot.
Cépage.
Les cépages, oui, c'est ça qu'on a dit la première.
Ouais. Bah non, nous on avait dit.
Bon, bah qu'est-ce qu'on fait du coup?
Non, mais
on départage.
La première intuition, c'est toujours la bonne.
Bon, je prends les taxis. Les cépages, effectivement, c'est une bonne réponse.
Bah, c'est bien ce qu'on avait dit.
Voilà, donc c'est.
C'était la deuxième.
C'est.
C'était la première.
Non, c'était.
Oui, c'était la première, oui.
Oui, voilà, la première réponse. Donc, ce sont bien des cépages américains hybrides, donc qui sont interdits en France, puisqu'en fait, ce sont des vins hybrides et qui poussent beaucoup trop. Et donc, ils ont la particularité d'être très résistants, mais ils sont interdits, puisque, soi-disant, ils rendraient fous, puisqu'il y a trop de méthanol dans le vin.
Notamment sur le Noah, oui, en Loire. Voilà. Ça rendait fou les gens.
Voilà.
Donc ils ont arrêté. Il y en a certains qui essaient de.
Mais voilà, justement, il y a quelques résistants qui plantent quand même ces cépages et qui produisent des bouteilles clandestinement.
C'est incroyable ça.
Une seule.
C'est un qui rend
fou. Question. Et les scores sont à combien
mais là, on avait dit aussi le
1. Ouais, il y a 12 à 10.
Après, il y a une question
12 à 10. Bah, question qui vaut 3 points.
Et donc là, c'est la dernière question.
Excusez-moi.
Donc il faut mettre le bled.
Le blade.
Ok.
Putain.
Ah, la pression.
Ouais, j'avoue de ouf.
Oh, la pression.
Non, on va être rapide, t'inquiète pas.
Cinquième et dernière question. Cette année, le 13 janvier, 13 bouteilles de vin et 320 serments de vigne sont revenus d'un voyage périlleux. À votre avis, que leur est-il arrivé? Que leur est-elle arrivée? Elles sont revenues d'un voyage dans l'espace pour tester leur résistance. Elles sont arrivées à Paris au Centre National Scientifique Viticole après avoir été retrouvées en Égypte dans le sarcophage d'un noble égyptien. Ou bien, elles ont été retrouvées dans l'intestin d'une baleine.
Génial. Taxi driver.
Le 1 ou le 3.
Moi, je dirais dans l'espace.
Non, pas ça. Nous, on dit pas ça.
Ouais. D'accord.
Non, non, mais ça suffit pas, on dit pas ça.
Ça va pas dire du coup.
C'est ma technique.
Le 2 et le 3.
Espace ah non, mais c'est absurde. C'est un sarcophage, du coup. Non, c'est, ça...
ça fait beaucoup de bouteilles hein, dans un sarco. Ah
non. Ouais, mais surtout qu'on a dit que
la dernière fois, c'était quoi là. Bah, on dit le 3, on dit le 3.
Alors
la 3, la 3.
Nous, on dit la 1. Hein.
Moi, je lui fais confiance.
La 1, oui.
Ouais.
Bonne réponse.
Ah, je vais vous dire un petit peu pourquoi j'ai dit la 1. Donc,
c'est parce que Elon Musk il fait.
Non, parce qu'il y a tant, t'as dit qu'il y a 13
la 1, tu m'as dit non. Non,
oui, mais du coup, alors,
13 bouteilles et 320, oui, serments de vigne qui sont venus d'un voyage.
Serments de vigne dans une baleine.
Alors, vous dites quelle réponse ?
Excusez-moi, hein.
Les policiers vont très, très vite en ce moment.
Je fais juste preuve de logique. Hein. Merci à tous.
Merci à tous.
Donc, vous
donc
dites.
On a gagné, quoi.
La première.
Ouais, oui,
la première. Et c'est une bonne réponse.
Ouais, on sait. Voilà.
Donc, voilà, elles sont revenues d'un voyage pour tester leur résistance, tout ça dans un but écologique.
Voilà.
Voilà, ok.
Wow. Un but écologique. À non, mais ils se foutent de la gueule.
Empreinte carbone, nickel.
Mais elle est avec vous. Elle est avec vous.
Alors, Pierrot, qui sont les grands gagnants? Parce que moi, j'ai rien compris à la dernière question.
Ouais,
n'en fais pas trop.
C'était un peu brouillon, mais le résultat final pour les demi-secs, 10 points, on les applaudit,
ouais,
bravo.
C'est pas mal, c'est pas mal.
Et pour les taxi drivers, les grands gagnants, 15 points, bravo.
Taxi driver, vous avez gagné les CD de
Nick Labac.
Non, pas de Nick Labac, non, c'est un artiste inconnu, il n'a rien produit, c'est sur YouTube. The Pal Queen, qui veut The Pal Queen entre vous deux?
Moi, je me suis chevaux.
Bah, j'ai pas de lecteur CD en fait.
Eh bah, t'auras celui-ci parce que F8 Jifu, apparemment, t'as un.
Switchfu,
ouais, ouais.
Apparemment, il a l'air mieux. Du coup,
voilà.
Faut rendre l'antenne là.
Faut rendre l'antenne. Il est 13h56. On va dire merci. On vous retrouve le mois prochain. On vous remercie tous d'avoir été ici. Merci Titouan, Pierrot, Mélissa pour votre travail qui est toujours autant formidable.
Et c'est rien à côté du tien, Sylvain.
Merci Pierrot. Merci à vous les candidats.
Merci de nous avoir accueillis.
Merci à toi.
C'était super.
On laisse l'antenne pour les Inuits des Pratons de Bourges qui se passent, où ça à Saint-Nazaire. Et nos équipes y sont en direct, alors on vous laisse. On vous laisse, on vous fait des bisous et au mois prochain. Allez, des bisous.
Et à la vôtre.
Salut.
La Baffe, l'émission qui claque les idées reçues.
J'suis pas un cowboy, mais j'aime ce prétendre que je suis.
Stéréotypes, exclusion, précarité menstruelle, le tabou des règles nous concerne toutes et tous. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le département de Loire-Atlantique vous invite à une webconférence « Le tabou des règles, un enjeu d'égalité » mardi 9 mars à 18h. Posez vos questions à des expertes et experts, Martin Vinclair, Élise Thiébault et Tara Euse-Sarmini.
Info, liens de visionnage et podcast sur la précarité menstruelle sur loire-atlantique.fr/droit-des-femmes. Un événement du département. Engagé.